Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Francis Cassis.
Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de l'actualité. Journée porte ouverte hier à Solbini, à Abidjan, des arbitres de la CAN 2023. Le président de la commission centrale des arbitres de la CAF, l'ivoirien Doué Noumandiez, se dit satisfait de l'instauration de la VAR, acronyme anglais signifiant en français l'assistance à l'arbitrage vidéo. La justice du Kenya juge l'envoi de policiers par le pays en Haïti anticonstitutionnel, illégal et invalide. Et puis vers la fin de ce bulletin, notre invité de la rédaction, le chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT. Selon lui, sur la base d'un rapport de l'Organisation internationale du travail, le travail informel croît en Afrique et y favorise la pauvreté. Ernst Eckhard répondra à ce défi aux questions de Jean-Claude Comé. Le président de la commission centrale des arbitres de la CAF, l'ivoirien Doué Noumandiez, salue l'utilisation à la CAN en Côte d'Ivoire de la VAR, acronyme anglais signifiant en français l'assistance à l'arbitrage vidéo. C'était hier à Solbini à Abidjan dans une journée porte ouverte des arbitres de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, nous dit Jean-Mylène Bitti.
Cette journée avait pour objectif de faire le bilan de la première phase de la compétition, a fait savoir Doué Noumandiez, instructeur CAF et par ailleurs président de la commission centrale des arbitres de la Confédération africaine de football.
Nous avons des points à améliorer et c'est à ça que nous travaillons tous les matins aux entraînements. Avec les groupes d'instructeurs, nous suivons tout, nous décortiquons tout et nous repérons. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu qu'on a insisté sur le contrôle de la surface de réparation parce qu'on a vu que quelquefois, les arbitres tardaient un peu au niveau de l'axe. Quelquefois, ils pouvaient soit interférer avec le jeu, soit n'étaient pas confortables pour anticiper la deuxième phase qui était à l'intérieur de la surface. Donc nous avons fait cet exercice-là aujourd'hui pour leur apprendre à vite se dégager de l'axe et toujours garder le jeu devant eux pour pouvoir voir surtout où va le ballon.
Sur l'instauration de la VAR à la CAN 2023, Doué Noumandiez se dit satisfait.
Tout le monde dans le football a la possibilité de revoir les actions et de faire un commentaire, sauf l'arbitre. Donc pour nous, c'est un outil extrêmement important. C'est pour ça que l'utilisation est encadrée et nous demandons aux arbitres d'arbitrer sans VAR. Et les VAR, c'est comme un parachute qui doit intervenir uniquement quand on a des situations extrêmement difficiles.
Présent à cette Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitre est L'Éthiopien Tessama Weyeza revient sur cette journée.
You know, we are a family of football.
Vous savez, nous sommes une famille réunie pour le développement du football africain, que ce soit les joueurs, les arbitres, les administrateurs ou même les médias. C'est une grande opportunité que nous avons de nous rencontrer. Nous avons travaillé sur ce qui n'a pas marché, également sur ce qui a fonctionné et le résultat est à mettre au bénéfice du football africain et cela me rend fier.
Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est au total 68 personnes, dont 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres VAR qui sont à la tâche.
Volet restauration de cette CAN en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les restaurateurs disent observer leur clientèle baisser en l'absence de match des éléphants, alors qu'ils s'attendaient à mieux. Soutiennent-ils dans ce reportage de Christelle Yesso.
À Abidjan, de nombreux maquis et restaurants ont fait peau neuve aux couleurs de la CAN. Pour attirer une nouvelle clientèle, Liliane a opéré des réaménagements dans son restaurant.
On a arrangé même le coin ici, on a acheté de nouveaux drapeaux. Les drapeaux de ceux qui participent à la CAN, mais plus le drapeau ivoirien, puisque c'est nous qui organisons la CAN. On a acheté même de nouvelles tables pour attirer plus la clientèle.
Cependant, l'affluence de sa clientèle varie au gré des matchs de l'équipe ivoirienne, impactant ses revenus.
Il y a eu une baisse même au niveau de la clientèle. Mais le jour où la Côte d'Ivoire joue, il y a l'affluence ici, les clients viennent.
Même constat dans les villages CAN, où se trouvent aussi des espaces restauration dressés pour l'occasion. Angéline, qui y a dressé son stand, s'est vue baisser ses prix par manque d'affluence.
On a diminué les prix parce que c'était pas trop ça. Donc on a cassé les prix pour que ça puisse rentrer.
Est-ce que ça rapporte plus qu'avant?
Un peu. Ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a vu. Mais on fait avec. Pas les matchs de Côte d'Ivoire, que les gens viennent. Et quand ils viennent, même à peine même qu'ils mangent.
Plus loin, dans le quartier d'Angré, à Cocody, cette gérante de plein air, qui vit la même situation, espère une victoire des éléphants pour voir ses revenus augmenter.
Notre souhait, c'est qu'on avance jusqu'au bout, quoi, pour que aussi, ça ait une répercussion sur nos recettes, quoi.
La CAN, Un coup dur pour les restaurants qui voient leurs revenus influencés par le résultat des matchs.
Le ministère de l'économie, du plan et du développement a procédé ce jeudi 25 janvier au lancement d'un forum économique et touristique dénommé Invest in Boaké ou Investir à Boaké en français. Initié par sa mairie, ce cadre d'échange qui va durer 2 jours permettra d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers à s'intéresser à la région du Béké, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional.
L'organisation du forum Invest in Boaké revêt une importance capitale, au dire du ministre Amadou Koné, maire de Boaké.
Investir à Boaké vise à créer des richesses par l'investissement, créer des emplois pour les jeunes par la création d'industries, encourager les activités génératrices de revenus et de développement de divers secteurs d'activité, redonner à Boaké son positionnement géostratégique passé qui lui a valu le classement de deuxième ville de Côte d'Ivoire et d'en faire la première ville attractive des villes secondaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine.
Cette initiative épouse la vision du gouvernement ivoirien, affirme Kaban Nialé, la ministre de l'économie, du plan et du développement, représentant le vice-président de la République.
L'organisation de ce forum d'affaires constitue donc une modalité de mise en œuvre du 5e pilier de notre plan national de développement 2021-2025, pilier qui porte sur le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.
Paul Kofi Kofi, le commissaire de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, se félicite pour sa part de la tenue de ce forum. Propos soutenu par le général Daouda Niang, ambassadeur du Sénégal, se réjouit des bonnes relations d'affaires entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le forum Invest in Boaké sera meublé entre autres de panels, de foires et de visites touristiques. Joseph Assalé, Boaké. Radio de la paix.
Et ce forum économique et touristique dénommé Invest in Boaké a été l'occasion pour le maire d'annoncer les grands projets innovants et structurants pour sa ville, capitale de la région du Béké, Amadou Koné.
En lançant le forum économique Investir à Boaké, mon équipe et moi avons conçu plusieurs projets afin de concrétiser notre vision d'un Boaké plus attractif, d'un Boaké plus prospère. Il s'agit plus précisément de projets innovants et porteurs de richesses. Dans l'agro-industrie, Boaké va disposer de plantations intégrées avec plus de 600 hectares pour le maïs irrigué, 50 hectares pour le piment destiné à l'exportation, 2000 hectares pour l'ananas, à Béoumi notamment, et 6000 hectares pour le riz. Pour l'élevage, nous prévoyons l'installation d'une ferme avicole et des discussions sont en cours de 1,2 million de têtes. Un abattoir moderne de volailles, un ranch à bétail avec donc mon frère Sidi Touré. Dans le secteur industriel, nous souhaitons avec le soutien du gouvernement relancer l'industrie textile avec l'usine Gonfreville sur environ 60 hectares, fleuron historique de l'économie de la ville de Boaké. À cela s'ajoute la construction d'une plateforme logistique sur une superficie d'environ 1000 hectares, la réhabilitation du marché de gros qui est en cours grâce à la Chambre de commerce et le ministère de l'Industrie, la mise en place d'une chaîne de froid pour la conservation des aliments et la construction d'une usine de production de sacs à toile de joute. Le hub de la mobilité verte se traduira par la création d'une usine d'assemblage de motos électriques afin d'améliorer l'environnement et le cadre de vie.
Le maire de la commune de Boaké, le ministre des Transports, Amadou Koné. L'ANADE, l'Agence nationale de développement rural, a validé lundi et mardi dernier pour une dizaine de localités du département du Divo des plans d'action communautaire élaborés l'année dernière. Cela vise à mettre en œuvre le programme Cocoa Life qui doit construire une chaîne d'approvisionnement en cacao et transformer la vie des planteurs face aux contingences climatiques, environnementales et sociales. De Divo, la correspondance de notre correspondant dans le Lot-Guibois, Abel César Cassin.
Le chargé de suivi du programme Cocoa Live à l'ANADER, du reste principal modérateur de cet atelier, qui a regroupé une cinquantaine de participants en 2 jours en dit plus sur le plan d'action communautaire, série Ballet Elvis.
Des contraintes au développement des différentes localités ont été identifiées, sont là pour les solutionner. Des idées de projets ont donc été identifiées de manière participative avec les communautés locales. Le premier rapport, qui est le rapport provisoire des plans d'action communautaire, a été donc élaboré par l'ANADER et c'est ce plan d'action communautaire là qui est un ensemble de projets des différentes communautés là qui est soumis à un comité de validation. C'est une boussole pour le développement. Ce Dada assure la supervision de toutes les activités que nous menons dans le cadre de ce programme-là.
Le chef de zone intérimaire Anader Divo, Kona Anissé, situe l'utilité de ces plans d'action pour le futur.
Les PAC vont être pris en compte dans le développement de notre région. Si, par exemple, le Lieu du Bois veut faire des projets, ils vont se baser sur ces réflexions-là pour développer facilement les projets au niveau des communautés.
La porte-parole du comité de développement de PTMP, Mouné Mawa Kessé, livre un condensé de leur plan d'action.
Rail, jusqu'à Sipo, on a problème de route, on a problème de maternité, d'école. Nos enfants vont dans des différents villages pour aller à l'école. Baroko, Manoir 2, nous avons besoin de marcher.
A noter que le comité de validation composé de directeurs régionaux et des chefs de services techniques de Divo est présidé par le préfet Guéhi Afoué, Jeannette. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Une note triste dans cette édition. Le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, qui a aussi mené le combat de Foufer Abiton, est mort le mardi dernier au CHU d'Angri. Ici à Kadiabi, doit être inhumé aujourd'hui, cet après-midi, au cimetière de William Civil, selon une source proche de sa famille. Un tribunal kényan a bloqué ce vendredi la décision de son pays qu'il juge inconstitutionnelle, illégale et invalide de déployer 1 million de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. L'île caribéenne est secouée depuis des années par les violences des gangs. Le Parlement kényan avait approuvé le 16 novembre l'envoi de policiers dans ce petit état où le chaos et la violence des gangs ont fait près de 5000 morts en 2023, selon le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, indique l'AFP. Le ministère israélien des Affaires étrangères demande aux ambassades étrangères dans le pays de se tenir prêtes par rapport à une éventuelle guerre contre le Hezbollah qui pourrait entraîner des coupures d'électricité. Le ministère a conseillé aux représentations diplomatiques de prévoir notamment des générateurs de secours et des téléphones satellites. Mais les diplomates étrangers pensent qu'il s'agit plutôt d'un coup de com' pour que le Hezbollah, considéré comme un groupe terroriste basé au Liban, négocie un accord, rapporte l'agence France-Presse, citant le journal britannique le Financial Times. Place à présent à notre invité de la rédaction, le chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT. Pour lui, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, le travail informel est très élevé en Afrique et cela nourrit la paupérisation sur le continent. Ernst Eckhard répond à ce défi aux questions de Jean-Claude Koumi.
Monsieur Ernst Eckhard, bonjour.
Bonjour.
L'OIT, l'Organisation internationale du travail, a produit un rapport pour s'intéresser à la situation de l'emploi dans le monde. Qu'est-ce qui explique la résilience du marché du travail malgré donc la détérioration des conditions économiques que vous avez notées dans le rapport?
Oui, alors effectivement, il y a un ralentissement économique annoncé depuis 2002 et qui va continuer aussi les prochains mois, mais qui ne s'est pas traduit immédiatement à un ralentissement de la croissance de l'emploi. Il faut bien voir que l'emploi suit toujours avec un certain retard la croissance économique et donc on va ressentir le ralentissement de la croissance économique seulement cette année, et ce qui explique en grande partie pourquoi le chômage n'a pas vraiment augmenté depuis.
Mais dans ce rapport donc dénommé emploi et questions sociales dans le monde, le rapport en tout cas note un ralentissement de la croissance africaine en 2023. Qu'est-ce qui explique justement ces ralentissements économiques?
Effectivement, le continent africain a subi de plein fouet les différentes crises internationales, à savoir notamment la crise de l'énergie et plus particulièrement la crise des prix agricoles. Et ce qui fait que l'inflation a augmenté beaucoup plus en Afrique subsaharienne que dans d'autres régions du monde, ce qui se traduit directement à un ralentissement plus important de la croissance économique.
Alors donc, ce ralentissement, quelle est son incidence sur le milieu du travail, notamment en Afrique?
Alors, le ralentissement économique dans les pays africains se traduit principalement à une hausse de l'informalité et de la pauvreté au travail, beaucoup plus qu'une hausse du chômage qui, lui, reste plutôt limité.
Donc, pour vous, il y a plus de travail informel, justement. Vu sous l'angle de l'OIT, quand nous parlons d'un travail informel, c'est quoi?
Mais alors, effectivement, l'informalité reste toujours très élevée dans les pays subsahariens, et ce qui implique notamment une forte pauvreté au travail. Il faut dire que l'informalité, c'est quoi? C'est principalement les travailleurs qui ne sont pas couverts par la protection sociale, qui ne sont pas couverts par un contrat de travail et qui sont souvent pas dans une situation d'emploi stable, hein, donc avec une rémunération très variable et souvent des périodes de chômage intermittent. Donc ces travailleurs sont dans des situations précaires et les pays africains sont particulièrement touchés par ce problème.
Mmh. Alors, mais comment inverser cette tendance, hein? Le rapport note en Afrique, hein, un pourcentage qui avoisine les 86% d'emplois informels. Comment inverser la tendance?
Alors, la chose la plus importante, immédiatement, c'est effectivement de retrouver la croissance, hein. Je pense que ça, c'est la première chose. Mmh. Après, la croissance en elle-même ne suffira pas, hein. Il faut aussi que ce soit la croissance, notamment dans des secteurs qui créent beaucoup d'emplois, hein, notamment dans les services et d'une certaine manière aussi dans l'industrie, hein, beaucoup plus que par exemple dans les secteurs minières. Hein. Mmh. Et donc ça va être un problème important à résoudre dans l'avenir, de créer cet ajustement, cette restructuration économique, si vous voulez, qui permet notamment aux personnes actuellement dans les secteurs précaires de retrouver un emploi plus stable avec une dynamique économique plus importante.
Alors, il faut légèrement améliorer, hein, la pauvreté des travailleurs. C'est en tout cas les indications de ce rapport. Pour vous, concrètement, comment y arriver,
hein? Une des clés importantes pour résoudre la formalité et la précarité, c'est effectivement de mettre l'accent sur la protection sociale, de permettre justement un meilleur accès à des systèmes de sécurité, de santé, de chômage, de retraite, etc., pour permettre justement aux gens de mieux être assurés contre les différents risques qui arrivent sur le marché du travail. La deuxième question, effectivement, c'est toujours une question de salaire minimum adapté aux conditions économiques sur place, hein. Le problème numéro un des travailleurs informels, ils sont souvent sans revenus stables, avec des revenus extrêmement faible. Donc, un salaire minimum permettrait à un plus grand nombre de personnes, justement, de bénéficier d'un salaire régulier et qui couvre les besoins nécessaires.
Une cible importante, hein, qui vous intéresse à l'OIT, hein, c'est la jeunesse, hein. Justement, quelle est la situation des jeunes, hein, dans les politiques de création d'emplois notées dans le monde, notamment en Afrique, que le rapport élève?
Alors, effectivement, la situation des jeunes en Afrique est extrêmement préoccupante, puisque c'est pas seulement ces jeunes-là qui sont touchés par le chômage, mais souvent par un détachement total du marché de travail. Et ça touche un pourcentage important de jeunes qui sont ni en travail, ni en éducation, ni en formation. C'est-à-dire qu'on ne leur propose pas du tout une possibilité d'insertion sur le marché de travail à long terme. Et donc, il faut absolument s'assurer que les jeunes au moins retrouvent une formation ou un accès à un centre d'éducation pour pouvoir améliorer leurs compétences, qui leur permettra par la suite d'intégrer le marché du travail.
Et puis 2024, hein, pour terminer, est annoncé, hein, comme une année de rebond, donc au plan économique. Alors, quelles retombées possibles, hein, sur le milieu du travail?
Alors effectivement, à partir du moment que la croissance commence à redémarrer, le ralentissement qu'on a observé jusqu'à présent va s'arrêter et le marché du travail va retrouver un peu ses couleurs, hein, créer plus d'emplois et plus d'emplois justement pour les jeunes.
Monsieur Ernst Eckhard, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, à l'instant, le chef de l'unité politique macroéconomique et emploi, l'OIT, Ernst Eckhard, interrogé par Jean-Claude Comé. C'est ce qui met fin à ce bulletin de rappel de ces titres. Journée porte ouverte hier à Solbigny à Abidjan des arbitres de la CAN 2023. Le président de la commission centrale des arbitres de la CAF, l'ivoirien Doué Noumandiez, se dit satisfait de l'instauration de la VAR, acronyme anglais signifiant en français l'assistance à l'arbitrage vidéo. La justice du Kenya juge l'envoi de policiers par son pays en Haïti anticonstitutionnel, illégal et invalide. Les infos de ce vendredi, c'est aussi la revue de presse de Jean-Mélène Bitti à suivre maintenant.
Bonjour à tous. L'offensive diplomatique du président de l'Assemblée nationale, l'avis du PDCI 2 jours après l'installation de Tidiane Thiam,